sans liberté. Une émission pour déménager la biologie. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature. Et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler entre 18h et 19h30 sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Bonjour à vous, je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission.
S'il est bien une question rarement posée à la nature, c'est l'idée de son essence égoïste, qu'il paraît bien difficile de remettre en question. À vrai dire, cet égoïsme est tellement naturel qu'il est considéré comme l'une des bases fondamentales sur laquelle s'érigent toutes les lois biologiques. L'individu ne doit-il pas survivre lui-même avant tout et échapper à l'agression des autres espèces ennemies? Ainsi, raconté par Richard Dawkins, l'allégorie des brontosaures qu'un tyrannosaure pourchasse est conçue comme une bonne description de la sélection naturelle. Pourquoi courons-nous en perdre haleine, dit l'un des brontosaures? Le tyrannosaure court bien plus vite que nous et il va nous rattraper. Oui, mais je ne cherche pas à courir plus vite que lui, répond l'autre brontosaure. Je cherche à courir plus vite que toi. Le monde du vivant nous est donc dessiné comme une lutte perpétuelle pour la vie, où chacun doit être mieux adapté que l'autre. N'empêche, dans cette course préhistorique, on ne dit rien du fait que les deux brontosaures pourraient aussi bien se séparer, ou encore entraîner ensemble le tyrannosaure dans les fourrés. Si l'égoïsme paraît si fondamental dans les sciences du vivant, il reste cependant une simple représentation de valeur. Et personne ne peut ignorer combien les abeilles collaborent ou que les loutres jouent. Le contraire de l'égoïsme serait-il l'altruisme? En biologie, on parle d'altruisme quand l'aide qu'un individu apporte à un autre diminue sa survie et sa reproduction, c'est-à-dire réduit sa valeur sélective. Il est vrai que chez les fourmis, les individus ne semblent pas peser bien lourd dans la famille. Le sacrifice est souvent ce qui mesure l'altruisme des animaux. Bénéficiant à d'autres, aux dépens de l'individu généreux, cette abnégation doit logiquement être écartée par la sélection naturelle, en même temps qu'elle élimine l'individu trop généreux. Puisque l'altruisme s'avère conçu comme nécessairement mauvais pour la survie de l'individu, l'égoïsme paraît évidemment le point de vue le plus immédiatement favorable dans la nature sauvage. Ainsi irait la bataille des espèces. Mais qu'est-ce que la sélection naturelle sélectionne ? Le gène, répond Richard Dawkins, en développant en 1976 une vision très orthodoxe du darwinisme. Chaque gène se comporte d'une manière qui conduit au plus grand nombre de copies de lui-même d'apparaître dans les générations futures. L'évolution n'est qu'une propagation des gènes, et nos gènes construisent nos corps et nous maintiennent en vie afin de fabriquer d'autres copies de gènes. Les êtres vivants sont essentiellement des machines à survie, des sortes de véhicules pour les gènes. Donc, le gène est égoïste. Dawkins le décrit ainsi. Un gène saute de corps en corps au cours des générations, manipulant corps après corps à sa manière et à ses propres fins, abandonnant une succession de corps mortels avant qu'il ne sombre dans la sénilité et dans la mort. L'unique et sa propriété serait donc encore plus réduit que ne le pensait Max Stirner. Chaque individu, à son tour, ne peut survivre que si chacun se comporte dans son propre intérêt génétique. Toutefois, l'écureuil terrestre avertit ses congénères au risque de se perdre lorsque l'aigle paraît. Il semble que cet égoïsme fondamental de notre nature n'interdirait ni l'altruisme ni la coopération. Une stratégie altruiste pourrait être évolutivement sélectionnée si elle favorise égoïstement la diffusion des gènes. Les individus peuvent donc aussi former des alliances, des groupes, du moment qu'ils s'assurent que leurs gènes sont transmis. Malgré ce principe de survie du plus apte, le critère ultime qui détermine si un gène va se répandre n'est pas de savoir si le comportement est à l'avantage de l'individu, mais s'il est à l'avantage du gène, dit Dawkins. Contre cette théorie, voilà que John Rugarden publie au contraire en 2009 que le gène serait généreux. Elle en appelle à déconstruire Darwin. Les gènes ne peuvent pas être égoïstes, dit-elle, puisque les individus doivent travailler ensemble. Que serait le nid du merle, bâti instinctivement grâce aux gènes, s'il ne favorisait pas à la fois le mâle et la femelle, énonce-t-elle. Étayant ses hypothèses sur des modèles mathématiques, l'auteur affirme donc que l'évolution dépend de la coopération et expose son argumentaire en dénonçant nombre d'insuffisances de la théorie actuelle. Piotr Kropotkin avait lui aussi signalé combien l'entraide pouvait s'avérer un comportement à grande valeur évolutive. Nous voilà donc au cœur d'une question étonnante. Finalement, la nature est-elle égoïste ou généreuse? Mais que signifie vraiment ce terme « égoïsme du vivant » ? Moi, je crois que c'est par égoïsme que je pense aux autres, affirmait Romain Gary. À regarder de plus près les êtres vivants, il semble bien possible d'imaginer que l'évolution puisse finalement fonder la réconciliation de Max Stirner et de Pierre Kropotkin. Nous sommes sur 89.4, Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, et nous avons 1h30 pour approfondir tout ça.
C'était L'égoïste solidaire de Rémi Geffroy. Nous voilà sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, où nous nous amusons à éplucher la biologie dans une émission faite pour tous les aventuriers de la réflexion et autres dégourdis de la cervelle. Science en liberté. L'altruisme et la coopération sont devenus des thèmes inévitables de la biologie, puisqu'ils assurent la survie des gènes apparemment égoïstes. Les gènes aussi sont en compétition les uns avec les autres pour se propager au fil des générations futures, et chaque individu a intérêt à choisir de répandre les bons gènes. L'égoïsme de la nature serait-il simplement un préjugé, ou au contraire, faut-il y voir l'essence de toute chose ? Bonjour Thierry.
Bonjour Siona. Oui, aujourd'hui on va disséquer la question de l'égoïsme dans la nature.
Oui, justement, je me souviens d'une petite fable théorique que tu racontes dans un de tes livres et qui présente l'intérêt supposé de l'égoïsme. Il s'agit de l'archipel des bienheureux. Imaginons d'abord deux îles paradisiaques. Sur la première, on s'installe un groupe de gentils, de personnes au grand cœur, douces et tranquilles. On imagine alors la vie calme et même un peu plate de ces gens-là, civilisés et bienheureux.
Oui, Siona, tout y est, tranquille, sans conflit. Mais on se fait vite une image d'une sorte de bonheur ronronnant, avec des sourires niais et parfois même un certain ennui.
Oui, sur l'autre île, toujours isolée de l'archipel, on place un groupe des plus méchants, des humains, des cruels, des perfides et des salopards. Là, sur l'île, on présume que ce sera la loi de la jungle, le règne des coups bas. On suppose vite une vie infernale où la survie est difficile et les saloperies nombreuses entre chacun et tous les autres. Une lutte pour la vie effrayante.
Oui, on peut imaginer en effet que c'est une struggle for life darwinienne, une bataille impitoyable où les plus forts demeurent, les plus faibles disparaissent. Une sélection silencieuse et impitoyable.
Mais la fable ne s'arrête pas là. Il faut maintenant imaginer qu'un des gentils, qui peut-être s'ennuie trop, décide de partir vers l'île des méchants, juste pour voir ce qui s'y passe. Il accoste sur le rivage au milieu des méchants. Alors, que lui arrive-t-il ? Il est facile de le présager. Au milieu des salopards, il lui arrive des choses cruelles et bestiales. Il ne peut rien faire. Un gentil isolé n'a aucune chance de survie.
Oui, c'est que le gentil est considéré comme trop faible dans une nature cruelle. Il a forcément perdu la guerre du vivant.
Au contraire, si on imagine maintenant qu'un méchant décide de nager jusqu'à l'île des gentils, en arrivant, il sera bien accueilli et pourra faire preuve de toute sa monstruosité pour très vite prendre tout le pouvoir, s'accaparer toutes les ressources. Grâce à sa brutalité, le méchant réussit toujours à s'imposer sur l'île des gentils. Que veut dire cette fable de l'archipel des bienheureux ? Quelle est sa signification au point de vue de la biologie, Thierry ?
Eh bien, cette fable est censée nous expliquer que ces deux concepts contradictoires ne sont pas symétriques. Dans la lutte pour la vie, c'est toujours celui qui est égoïste qui vaincra, alors que celui qui est altruiste ne peut survivre qu'à certaines conditions, et ces conditions sont considérées comme très rares dans la nature.
En fait, c'est la lutte pour la vie. On y retrouve aussi les fondements biologiques de l'évolution selon Darwin.
Tout à fait. En 1803, Malthus développe la thèse suivante. Le nombre d'êtres humains étant trop important pour les ressources qu'ils peuvent produire, il y a une sélection qui va s'opérer entre eux. Les plus forts survivent, les plus faibles sont éliminés. En 1859, Darwin en tire une intuition dite ingénieuse. Et si une sélection silencieuse était également à l'œuvre dans la nature ? Cette sélection naturelle favoriserait les espèces les mieux adaptées à leur milieu. Par exemple, sur l'île des Galapagos, les pinsons possèdent un bec étroit, droit et robuste qui leur permet d'ouvrir des noix. Sur une autre île, les pinsons ont un bec fin, long et adapté pour picorer la chair molle des cactus. En suivant la théorie d'évolution de Lamarck, Darwin fait l'hypothèse que les individus issus d'une même lignée s'adaptent progressivement à leur environnement et en viennent à diverger de génération en génération.
Ainsi, la sélection naturelle suppose que la survie des individus dépend strictement de leur aptitude à survivre dans la lutte pour la vie. Et c'est la concurrence des survivants qui les fait peu à peu dévier en espèces distinctes. La nature est donc fondamentalement égoïste, alors ?
Alors, l'idée de sélection naturelle en biologie est venue à Darwin dans le cadre culturel de l'Angleterre victorienne. Il reprend ainsi l'idée d'une évolution des espèces biologiques. Mais il est toutefois difficile de développer comment des variations individuelles et héréditaires vont entraîner des différences radicales qui font faire de nouvelles espèces. Darwin les explique par ce qu'il nomme la lutte pour l'existence, « the struggle for life ». L'existence des êtres vivants n'est donc pas une amourette, c'est au contraire une « bataille ». Si des êtres vivants possèdent une caractéristique favorable qui va leur permettre de mieux survivre ou de mieux se reproduire, ils s'assurent alors une meilleure survie.
La nature semble exclure impitoyablement tout ce qui est faible et morbide, et elle privilégie les plus forts, les plus résistants. Du coup, dans cette concurrence impitoyable, il faut être égoïste, comme dans la fable de l'île des méchants.
La genèse d'une espèce suppose toute une série de phénomènes. L'apparition d'un caractère nouveau chez un individu a lieu théoriquement au hasard. Puis, par la transmission héréditaire, le développement graduel de ce caractère se fera parce qu'il apporte un avantage dans la concurrence qui l'oppose aux autres individus. Plus tard, on découvrira le rôle des gènes et la synthèse biologique, ce qu'on appelle maintenant le néo-darwinisme, établira que ce sont des bons gènes qui font apparaître ces caractères nouveaux et qui sont ensuite sélectionnés par la sélection naturelle. Chaque individu s'assure au mieux de réussir ou non à se reproduire plus que les autres. Cette concurrence est donc surtout reproductive et indirecte, même dans le néo-darwinisme. Mais à sa base, la nature est forcément égoïste.
Mais d'où provient cet égoïsme inhérent au néo-darwinisme ?
Alors cet égoïsme découle d'une hypothèse simple. Les individus sont naturellement des forces concurrentes, des adversaires à éliminer. Et ce tri peut être mortel. L'égoïsme n'est pas prouvé, mais indirectement, il semble constituer une vérité primordiale. Dans tous les cas, c'est l'élimination de certains qui révèle la valeur des autres. Mais Darwin pensait à deux types de sélection biologique. D'une part, la sélection naturelle, d'autre part, la sélection sexuelle. La sélection naturelle procède au tri des caractères aléatoires, ce qui va conférer un succès dans la lutte pour la vie. La sélection sexuelle concerne les caractéristiques qui augmentent la réussite de la reproduction, comme par exemple la couleur du plumage, le bois des cerfs, etc. Darwin mentionne le fait que certains traits ont un coût d'adaptation. Par exemple, la longue queue du paon, dans le cadre de la sélection naturelle, pourrait être mauvaise, et au contraire, elle l'est favorisée par la sélection sexuelle. Les deux sélections sont donc ici complémentaires pour Darwin.
Mais que ce soit sélection naturelle ou sexuelle, les deux processus reposent sur la rivalité, donc sur l'égoïsme des individus.
Dans un premier temps, on peut penser que l'égoïsme est fondamental dans la nature et qu'il s'oppose à l'altruisme, à la générosité. Les comportements vraiment altruistes sont considérés comme très rares, mais cependant ils existent. La question est donc, est-ce que les conduites apparemment altruistes remettent en cause l'idée d'un égoïsme fondamental de la nature ? Ce qui en fait la force de cette idée d'égoïsme de la nature est le processus de concurrence inhérent à la sélection naturelle. Et il coïncide parfaitement avec les idées dominantes de l'époque, qui sont évidemment les idées des dominants. Loin de constituer un enjeu immatériel du neutralisme scientifique, la théorie biologique participe donc souvent à fonder la part naturelle des choses. Et l'on sait combien les réactionnaires ont su tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la biologie. Il faut donc faire de la biologie théorique pour comprendre.
Oui, je suis d'accord. L'égoïsme de la nature est suspect, mais il semble pourtant vraiment fondamental. On n'imagine pas un être vivant se sacrifier sans lutter. La survie impose, semble-t-il, l'égoïsme des êtres vivants. On ne peut pas réfuter cette idée juste parce qu'elle ne nous plaît pas. Il faut analyser si elle est vraie.
Apparemment oui. Mais voilà encore là où le bât blesse, car c'est le terme de concurrence qui explique la sélection naturelle. L'égoïsme n'en serait que le fondement individuel. Alors il est difficile de parler de cet égoïsme puisqu'il est présupposé naturel à l'individu. Il n'est donc pas défini et que la concurrence, en plus, n'exclut même pas la coopération. Wallace, puis Darwin d'ailleurs, disent clairement que l'altruisme et la coopération sociale dans la société civilisée est supérieur à l'égoïsme dans le comportement individuel. Et comme le note Pichot, Ernst Haeckel, darwinien convaincu, développe dans la morale moniste que l'altruisme est posé biologiquement comme conséquence des instincts sociaux et de la nécessité de survie du groupe, au détriment de l'intérêt égoïste de l'individu. Quand on sait que Haeckel était raciste et qu'il a fondé les bases du dogme biologique de la politique nazie, on imagine la valeur morale de cet altruisme évolutif.
Donc, en biologie, l'altruisme et l'égoïsme font à la fois bon ménage et semblent cependant contradictoires.
En effet, cette opposition théorique entre égoïsme et altruisme, résolue parfois par des problèmes de mathématiques ou par la théorie des jeux, reste très banale en biologie, et c'est un poncif réinventé continuellement. André Pichot ajoute d'ailleurs que « ce radotage n'est pas chose étonnante, on a affaire ici à une discipline intellectuellement très pauvre et qui travaille à partir d'un nombre très limité d'idées. Les mêmes théories reviennent donc périodiquement. Pense-t-on vraiment que l'hérédité de l'altruisme et de la biologie des bons sentiments seront mieux acceptées que le chromosome du crime et le gène de l'homosexualité ? Les premières sont certes plus politiquement correctes que les seconds, mais elles sont tout aussi stupides et aussi peu scientifiques, car jusqu'à preuve du contraire, en génétique, l'hérédité s'appuie sur la structure primaire des protéines.
Pourtant, il existe des comportements altruistes dans la nature, lesquels peuvent vraiment être classés dans ce concept de comportement altruiste.
La définition n'est pas claire. En général, on considère comme altruiste un comportement qui réduit les chances de se reproduire d'un individu quand il en aide un autre. On pense le plus souvent aux fourmis dont les ouvrières se sacrifient à la tâche juste pour aider la reine à se reproduire. Il faut imaginer par exemple la vie des fourmis mellifères d'Australie. Chez les Camponotus inflatus, certaines ouvrières vont emmagasiner le myélat des pucerons à l'intérieur de leur tube digestif, dans leur gastre, et vont rester suspendues à la voûte des galeries servant de réserve hypertrophiée aux autres fourmis de la colonie. On assimile ainsi l'aide à la reproduction chez les mangoustes ou encore chez de nombreux oiseaux. Ou encore la famille de chacals où une seule femelle se reproduit et élève ses gènes à l'aide des autres. Voire aussi des comportements de vigilance chez les marmottes par exemple. En fait, les facteurs de coopération abondent dans la nature et Peart Kropotkin l'a mis en évidence dans son livre « L'entraide, un facteur d'évolution » en 1902.
Mais comment expliquer un tel sacrifice au profit de la communauté ?
Charles Darwin affirmait que « aucun instinct n'a été créé pour le bien d'autres animaux ». Pourtant, il semble exister des cas étranges de sacrifice. Par exemple, l'ovipositeur des abeilles stériles. Eh bien, cet ovipositeur dispose d'un venin très efficace. Mais l'abeille meurt car son dard s'arrache lorsqu'elle pique pour se défendre. Cette technique est donc kamikaze et elle paraît véritablement altruiste.
Aïe, 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 ça doit faire mal. Pourtant, à chaque fois que l'on décrit l'altruisme de la nature, c'est pour affirmer que sa base reste forcément l'égoïsme des individus. C'est très bizarre.
Tout à fait, Siona. Il faudrait analyser le sens de ces concepts. L'argumentaire de base est que les êtres vivants sont fondamentalement égoïstes simplement pour assurer leur survie dans le processus de concurrence. Alors cet égoïsme a plusieurs niveaux. Il existe bien entendu celui de la rivalité entre les individus où l'un essaye d'éliminer l'autre. Il existe aussi une concurrence indirecte où l'un se reproduit mieux que l'autre. C'est ça qui fait l'évolution sur Darwin. C'est donc d'abord imaginer que les fréquences des gènes changent dans les populations de génération en génération. Donc on peut imaginer qu'un caractère favorable envahit peu à peu une population parce que certains individus qui le portent sont avantagés et que les autres sont éliminés, directement ou indirectement. On peut donc résumer en disant que certains caractères sont bénéfiques et que d'autres sont désavantageux.
Mais la sélection sexuelle s'ajoute à la sélection naturelle. La sélection sexuelle repose sur d'innombrables hypothèses et s'enferme dans une sorte de confusion de théories très étonnantes, comme la théorie du handicap, par exemple.
Oui, dans la sélection sexuelle, on peut même parler de crise kuhnienne. Ce sont des milliers d'hypothèses contradictoires qui ne démontrent plus grand-chose et entraînent une très grosse confusion. Grossièrement, on part du principe que les femelles exigeraient des partenaires qui ont des bons gènes parce qu'ils contribuent ainsi à une meilleure descendance, une descendance plus robuste. Par exemple, un paon doit disposer d'énergie pour produire un beau plumage. La femelle aurait donc intérêt à choisir un mâle avec un beau plumage, car sa progéniture va hériter de ses bons gènes. Mais selon le principe du handicap, cette longue queue et ses couleurs constituent un handicap pour la survie du mâle. Mais comme ça constitue un avantage pour sa reproduction, ça se compense. Cependant, seuls les plus forts seront capables de survivre, indiquant aux femelles leur qualité en dépit de ce handicap. Cette hypothèse assez simpliste, faite par Amod Zahavi, la théorie du handicap, a été très populaire en biologie. Le choix exigeant de la femelle conduit donc à une amélioration au cours des générations de la condition physique des mâles.
Au bout du compte, la sélection naturelle et la sélection sexuelle aboutissent au même endroit, en évolution. C'est-à-dire à la propagation des gènes qui comptent.
Oui, parce que l'évolution est conçue comme une fonction mathématique d'invasion de bons gènes dans les populations. Le mécanisme de sélection sexuelle considère qu'une famille préfère et s'accouple de préférence avec des mâles ayant un certain ornement. La femelle va donc choisir les couleurs, les bois, la crête. Du coup, sa descendance femelle va hériter de cette prédilection pour l'ornement, et sa descendance mâle va hériter de l'ornement lui-même. Avec un schéma répétitif d'accouplement préférentiel, cela va se perpétuer et ça entraîne des modifications au cours de l'évolution. Donc la sélection naturelle agit sur un caractère au cours d'un tri mortel, et la sélection sexuelle perpétue ce caractère grâce à un choix répétitif. C'est ce que les biologistes ont nommé un runaway évolutif.
Donc la théorie évolutive part de l'hypothèse de l'égoïsme des individus. Mais périodiquement, elle insiste sur le nécessaire altruisme des espèces.
Oui, ce sont des répétitions théoriques périodiques qui redécouvrent l'entraide et ça permet en effet de tourner en rond en multipliant les prétendues révolutions dans la biologie.
Mais pourtant, c'est l'égoïsme qui revient en force. La théorie néo-darwiniste actuelle valorise surtout l'égoïsme. On a parlé de la force du concept du gène égoïste.
Alors, le gène égoïste, c'est une formule écrite en 1976 et qui a fait le succès d'un biologiste anglais, Richard Dawkins. Dawkins utilise le terme « gène égoïste » pour exprimer sa vision de l'évolution centrée sur le gène, par opposition aux vues qui étaient auparavant centrées sur l'organisme, sur l'individu. Qu'est-ce que la sélection naturelle sélectionne ? Le gène, répond Dawkins, et seulement le gène. Dawkins parle donc de gène égoïste pour affirmer que c'est le gène, et non l'organisme ou l'espèce, qui est la cible de la sélection naturelle. Poursuivant cette allégorie très anthropocentriste, il décrit le rassemblement des gènes dans les corps que c'est une simple stratégie de propagation de gènes efficaces. Tout son livre affirme que nous existons pour transmettre et propager nos gènes et en tant que machine de survie de ces gènes égoïstes.
La théorie du gène égoïste de Richard Dawkins réduit donc chaque individu à être un simple véhicule qui transporte des gènes.
Oui. Alors que la version classique de l'évolution nous dit au contraire que la sélection naturelle n'agit pas sur les gènes, mais agit sur leurs effets. Car les variations de gènes différents ne se manifestent que dans leurs effets. C'est ce qu'on nomme le phénotype, l'effet du gène sur le corps, et c'est ça qui est sélectionné, pas le gène. Du coup, la sélection naturelle favorise certains gènes parce que leurs effets phénotypiques est favorable à la survie. Et les espèces évoluent pour augmenter les chances de survie de chaque animal. En gros, l'idée c'est que le gène mute, l'individu est sélectionné et l'espèce évolue.
La théorie du gène égoïste a donc renversé le problème.
Oui, car Dawkins pense que l'individu est un ensemble génétique beaucoup trop temporaire, trop mortel pour être considéré comme une unité de sélection naturelle. La métaphore du gène égoïste signifie donc que le gène possède la qualité d'être copié par un processus de sélection darwinien, alors que les effets phénotypiques sont juste des outils qui lui permettent de survivre. Par conséquent, comme les gènes sont en compétition les uns avec les autres pour se propager au fil des générations futures, les espèces adoptent des stratégies évolutives stables.
Du coup, l'égoïsme est une stratégie des gènes. Comment c'est possible ?
Eh bien, c'est assez simple. En fait, il ne décrit pas vraiment autrement qu'en proclamant dès le début que l'égoïsme génétique donnera lieu généralement à l'égoïsme dans le comportement individuel. Dawkins affirme donc que la diffusion des gènes eux-mêmes se fait par tous les moyens. Cela reste du darwinisme encore plus poussé puisque la concurrence favorise seulement les gènes. Les gènes sont des informations transmises de génération en génération et sont ceux qui vont dérouler l'avenir. L'animal n'est donc que le moyen pour le gène de fabriquer d'autres copies de lui-même. C'est ce que Dawkins appelle un replicateur. On peut dire en gros que Dawkins est fasciné par la théorie d'information, quand il affirme « la vie n'est que des octets et des octets et des octets d'informations numériques ». En fait, pour Dawkins, seul le gène est immortel.
Donc le gène est égoïste parce qu'il se reproduit lui-même en exploitant les individus.
Oui, dans la rhétorique du livre, le gène égoïste inverse la situation naturelle. Avec cette métaphore, les gènes ont des propriétés, comme l'égoïsme, tandis que les êtres vivants sensibles sont juste des machines à survie.
Mais l'évolution, selon le néo-darwinisme, trie les organes et seuls survivent les individus les mieux adaptés. Alors comment peut-on considérer que c'est le gène qui est l'unité de sélection naturelle ?
C'est assez complexe en effet, parce que pour arriver à cette conclusion, Dawkins a soulevé une énigme, celle de l'excès d'ADN dans les êtres vivants. En effet, le généticien Susumu Ono a inventé en 1972 le terme « junk DNA », c'est-à-dire l'ADN poubelle. Il s'agit de régions de l'ADN qui ne codent pas directement pour la fabrication de protéines. Il assurait que les gènes codants formaient une infime partie de l'ADN total, moins de 5% du génome. Les biologistes les moléculaires avaient donc suggéré que les humains possédaient 50 fois plus d'ADN que ce dont ils avaient besoin pour que des gènes puissent coder leurs protéines. Et puis on a découvert qu'une grande partie de cet ADN excédentaire est constituée de transcriptases inverses. Alors c'est une enzyme virale dont le travail consiste à répandre des copies d'elle-même. Ce qui semblait donc confirmer la théorie de Dawkins, il y avait d'ADN poubelle. La sélection naturelle favorisait donc les gènes qui se construisaient eux-mêmes un corps pour réussir à transmettre un grand nombre de ces répliques. Les gènes étaient donc égoïstes.
Ces gènes apparemment inutiles sont donc un vrai mystère ?
À l'époque, oui. La théorie déterministe de l'ADN en faisait un outil obligatoire. L'ADN était obligatoire comme la base de l'expression des protéines. Mais cette utilité de cet ADN apparemment accidentaire n'est pas un paradoxe pour Dawkins, parce qu'il suppose que le véritable but de l'ADN est de survivre, ni plus ni moins. La façon la plus simple d'expliquer que l'ADN est excédentaire est donc de supposer qu'il agit comme un parasite. Les chercheurs ont aussi trouvé des séquences qui semblent neutres, et qui sont pourtant activement copiées, mais apparemment elles n'ont pas de conséquences pour l'organisme, et donc l'utilité n'en est pas comprise. En fait, tous les mammifères dont nous faisons partie semblent utiliser moins de 5% de leur ADN pour produire les protéines.
Moins de 5% de l'ADN est utile. Alors pourquoi y a-t-il des kilomètres et des kilomètres d'ADN inutilisés dans chacun de nos corps ?
Pour faire de la route, non, je plaisante. L'expansion extraordinaire des transposons a provoqué une forte augmentation de la taille du génome eucaryote, dont il représente aujourd'hui près de 90%. Donc notre génome, il a aussi accumulé des ADN dans son histoire évolutive, tout ce qu'il a rencontré, virus, autres espèces. Mais des découvertes récentes ont permis de montrer que cet ADN, qui était bien nativement qualifié d'ADN poubelle, pouvait en réalité jouer un rôle essentiel dans la régulation de l'activité des gènes. Ici, il faut comprendre l'importance du vocabulaire, car la question a un préjugé. Le néo-darwinisme a longtemps considéré que tout sert à quelque chose, que les corps sont donc adaptés et les gènes utiles. On considère que la nature ne va pas s'embêter d'éléments qui ne lui servent à rien. Et donc, on peut regarder cet ADN superflu comme un simple parasite. Mais cela ne tient plus. Au contraire, on peut vérifier que la nature gaspille énormément et produit une multitude d'éléments apparemment inutiles, mais qui restent conservés tant que les circonstances ne les éliminent ni ne les renforcent.
Ces séquences de gènes satellites paraissent cependant ne rien coder du tout.
Alors, au cours des séries de copier-coller successifs, les transposons emportent avec eux des morceaux de gènes pour déposer ces segments ailleurs, même parfois au milieu d'autres gènes. Dans ce cas, une séquence génétique nouvelle est formée et elle peut coder une protéine aberrante. Pourtant, parmi ces protéines erronées, il y en a quelques-unes qui peuvent rendre à l'organisme beaucoup plus performant. La cellule eucaryote continue de remanier en permanence son génome en combinant ces séquences nouvelles. Je suis certain que ces événements ont très largement contribué à l'évolution en favorisant la variabilité génétique. Cette diversité peut permettre une adaptation au bouleversement de l'environnement et en cela, quelques générations seulement.
Donc cet ADN appelé « poubelle » n'est pas un argument probant pour l'égoïsme des gènes ?
Non. En faisant un raisonnement a priori circulaire, en négligeant cet ADN parce qu'il était déclaré inutile, on ne risquait pas de lui trouver un rôle. On oubliait aussi qu'un gène ne détermine pas un caractère, mais qu'un gène est juste impliqué dans l'expression d'un caractère, ce qui n'est pas du tout pareil. Cet ADN peut être impliqué aussi bien comme le résultat d'inclusion pendant notre histoire évolutive que présenter un rôle crucial. Alors, il y a eu le programme international ENCODE qui a suggéré que plusieurs millions de ces séquences-là étaient en fait des séquences régulatrices et qu'elles sont situées dans ce qu'on appelait cet ADN poubelle. Ces séquences constituent donc de véritables interrupteurs génétiques qui régulent l'expression des gènes.
C'est-à-dire, ils régulent comment et quoi ces gènes poubelles ?
Eh bien, si on supprime expérimentalement des versions ou des combinaisons, par exemple du gène ARX qui est censé ne servir à rien, les souris représentent un retard de croissance fœtale ou encore une anomalie du développement cérébral. Donc ce n'est pas du gène poubelle. Par exemple, le professeur Athanasio a démontré que des séquences d'ADN dites « enhancers » semblent réguler l'activité d'autres gènes. En fait, ils auraient un rôle essentiel, par exemple en dessinant la forme du visage chez de nombreux mammifères. Il existe chez la souris plusieurs gènes de ces régulateurs qui semblent impliqués dans la forme de la face. Alors le problème est souvent qu'on désigne des gènes comme des éléments codant pour ou déterminant un caractère, alors qu'il faudrait évidemment beaucoup mieux parler de gènes impliqués dans un processus. D'autant que la suppression de ces gènes, apparemment inutiles, entraîne des anomalies sérieuses. Et on peut donc supposer que ces anomalies pathologiques sont dépendantes des mutations de ces fameuses zones régulatrices.
C'était un extrait de Slave of the Night par le groupe Metal Wings. Nous revoilà sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Dans cette émission, nous nous amusons à décortiquer les drôles d'idées de la biologie. Avec aujourd'hui une question très incommodante. Est-ce que l'égoïsme est présent dans la nature ou est-ce que, parce que nos sociétés sont convaincues de sa valeur sélective, l'égoïsme y est découvert? Alors Thierry, nous sommes restés sur le gène égoïste de Richard Dawkins qui, d'après lui, se propage tout seul en exploitant les corps. Mais on vient de voir que ces gènes parasites ou ADN poubelles pourraient bien avoir un rôle de régulation indispensable. Du coup, le gène égoïste est-il finalement si égoïste que cela?
Non seulement il faudrait discuter de ce que l'on nomme égoïsme en biologie, mais aussi clarifier les définitions. Par exemple, la notion de gène, eh bien, elle est très ambiguë. Dawkins se réfère à tout segment d'ADN qui peut faire l'objet d'une sélection. Ainsi, le gène, selon lui, peut être une séquence codante ou encore un élément de régulation, un opéron, un groupe de gènes, voire même un chromosome entier. Mais on doit noter qu'il existe une tautologie dans la définition de Dawkins. En effet, l'objectif de Dawkins est d'affirmer que l'unité de sélection est le gène. Mais ensuite, il définit le gène comme un segment d'ADN qui fait l'objet d'une sélection. On a donc affaire à un raisonnement circulaire. De plus, le gène n'est pas si immortel que ça, puisque des espèces entières disparaissent, sans compter le rôle de la dérive génétique. Bref, si le gène est égoïste, alors les virus sont des êtres maléfiques.
Tout à fait, oui. Il reste quand même la question de l'altruisme dans ces scénarios. Car le paradoxe, c'est que le gène égoïste ne contredit pas l'altruisme des animaux.
Eh oui! Mais cet altruisme, on va le voir, reste une expression de l'égoïsme fondamental des gènes. En expliquant l'interaction des gènes en termes d'égoïsme, Dawkins souligne l'idée de l'égoïsme inné de la nature. Son livre, qui est d'ailleurs très bien écrit, très jubilatoire, mais il laisse. On voit souvent Dawkins qui se laisse emporter par son éloquence. Par exemple, il proclame que l'altruisme pur et désintéressé n'a pas sa place dans la nature et n'a jamais existé auparavant dans toute l'histoire du monde. Il annonce donc ainsi une vraie philosophie de l'égoïsme universel, comme s'il s'agissait du fondement naturel et absolu de la biologie.
Pour Dawkins, l'égoïsme est donc clairement le fondement de la nature. Pourtant, paradoxalement, il établit que l'altruisme existe aussi. Mais pourquoi la sélection naturelle permettrait-elle que des individus soient stériles et n'aient finalement pas de descendance?
En effet, Siona, c'est un paradoxe apparent. Une abeille semble renoncer à sa progéniture juste pour aider à élever ses propres sœurs. C'est ce qu'on nomme l'altruisme. Un oiseau forme un groupe et aide ses parents à nourrir les oisillons. C'est encore de l'altruisme. Et il est difficile de comprendre pourquoi ce comportement existe, alors que théoriquement l'individu doit se sacrifier. Mais Dawkins a une vision très spéciale de cet altruisme. Reprenons les hypothèses de George Hamilton, il décrit l'importance des apparentés dans l'évolution de l'altruisme.
Oui, William Hamilton fut l'un des premiers à proposer une explication au comportement altruiste avec sa théorie de la sélection de parentèle.
Tout à fait, Siona. Ah. Les abeilles forment une colonie de femelles stériles qui pourtant vont élever leurs sœurs. Mais Hamilton observe que chez les abeilles, les ouvrières stériles montrent une plus grande parenté entre elles, 75% de parenté, alors qu'elles n'obtiennent que la moitié de leur gène de leur père et l'autre moitié de leur reine. Leur père est en effet haploïde, c'est-à-dire qu'il ne possède qu'un jeu de chromosomes, alors que les femelles en détiennent deux, c'est de l'haplodiploïdie. Du coup, ça provoque une extrême parenté entre les butineuses, et cette extrême parenté plus forte qu'avec leur mère, qu'est la reine, pourrait donc avoir un rôle dans le sacrifice des ouvrières. Il établit ainsi que l'altruisme ne peut exister que s'il comporte des bénéfices indirects pour celui qui aide. Il s'agit de bien comprendre qu'un comportement altruiste n'est donc jamais totalement désintéressé. Ces altruistes aident exclusivement leur propre parenté parce que cela contribue à la propagation d'une partie de leur gène. Car chez ces hyménoptères sociaux haplodiploïdes, les sœurs ont donc la plus grande proximité génétique entre elles qu'avec leur mère. C'est ce que Hamilton va appeler la sélection de parentèle. Les recherches ont ensuite suggéré qu'en effet, la parenté pourrait favoriser la coopération, aussi bien chez les fourmis que chez les écureuils ou même chez les lions.
On pourrait juste aider nos propres parents, en quelque sorte.
Ça reste une théorie. Mais la question biologique reste posée par le gène égoïste. Si l'agressivité confère toujours un avantage, comment l'altruisme a pu évoluer? Pour favoriser la propagation des gènes égoïstes, l'altruisme devient non seulement attrayant, mais surtout il devient inéluctable, puisque même l'altruisme favorise la propagation de ses propres gènes au détriment des membres apparentés. Il subsiste néanmoins un problème. Les comportements altruistes existent aussi chez des animaux non apparentés, comme par exemple les termites, les oiseaux, de nombreux mammifères comme les lions, qui n'ont pas ce système haplodiploïde de transformation des gènes. Alors la parentèle ne peut donc pas fonctionner, elle ne peut pas vraiment expliquer pourquoi ces animaux qui ne sont pas plus apparentés entre eux que d'autres animaux solitaires vont être en groupe, en coopérative.
Alors le bénéfice ne vient pas uniquement de la simple parentèle, mais l'altruiste aide aussi le groupe auquel il appartient. Ça marche, et si on reprend finalement l'idée de Darwin en son temps.
Non, l'idée de Darwin, ça marche mal, car cela suppose une sélection de groupe, et on n'en voit pas le mécanisme génétique, s'il n'y a pas de parenté. Mais en réfutant la sélection de groupe, Dawkins va proposer cette alternative. Il indique que l'altruisme des animaux s'explique par l'égoïsme des gènes. Il déduit que, en aidant les apparentés à se reproduire, un gène parvient à aider les copies d'eux-mêmes à se reproduire. Un gène pourrait donc être capable d'aider des répliques de lui-même et tout ce qui se trouve en fait même dans d'autres corps. Les animaux ne se sacrifient parce que leur abnégation se fait au bénéfice d'individus apparentés qui possèdent des gènes similaires à eux-mêmes. Du coup, les abeilles, les fourmis sont stériles en se sacrifiant pour le groupe. Chaque individu permet tout de même à ses propres gènes de se propager. Derrière l'altruisme apparent, il y a donc un gène égoïste. L'argument est que ces actions égoïstes des gènes conduisent à des actions désintéressées de la part des organismes.
Cela ressemblerait à de l'altruisme individuel, mais ce serait en fait provoqué par l'égoïsme génétique. Mais cet altruisme ne pourrait-il pas provenir d'autre chose, Thierry ?
Alors, on avait proposé aussi, dans les années 60, pour suivre un peu Darwin, d'expliquer l'altruisme par une sélection de groupes. C'est-à-dire que les avantages pour les individus étaient censés être dépassés par les avantages du groupe. Et c'est cet avantage du groupe qui était censé expliquer la diffusion du comportement altruiste. Les individus altruistes favorisaient la survie du groupe en se sacrifiant eux-mêmes. À côté donc de la sélection naturelle des individus, il existerait une supposée sélection de groupe.
Si l'idée est que la sélection naturelle ne vise pas uniquement les individus, mais le groupe.
Tout le groupe en entier, tout à fait. Un groupe coopérant a plus de chances de survie si les actions de coopération sont destinées à de nombreux individus du groupe. Mais l'existence d'une telle sélection est problématique, on ne sait pas trop comment ça pourrait marcher. Car la sélection naturelle ne peut trier que par la survie d'un individu ou par sa reproduction différentielle. Le groupe paraît donc une entité bien artificielle, et il n'y a aucune forme connue de sélection de groupe qui permettrait d'obtenir une stratégie stable. Par exemple, si un caractère comme le dard des abeilles est porté par un gène altruiste, qui pourrait expliquer ce gène puisque l'ouvrière stérile et elle meurt après avoir utilisé ce dard ?
Effectivement, c'est contradictoire.
Et si d'autres individus le transmettaient, comment expliquer qu'ils ne se montrent pas altruistes dans ces cas-là en sacrifice, puisque eux, ils vont du coup se reproduire pour pouvoir transmettre le gène. Prenons par exemple le lemming. Alors le lemming, c'est un petit rongeur de la toundra qui peut atteindre de très fortes densités en été. On assiste tous les 4 ans à peu près à la migration des lemmings qui, au bout de leur périple, semblent se jeter dans l'océan. On les retrouve noyés, épuisés. Alors on pourrait penser que ce geste apparemment suicidaire serait une sorte de résolution pour diminuer la surpopulation excessive. Sauf que, en même temps que les lemmings porteurs du gène du sacrifice mouraient, le gène disparaîtrait dans les populations. Il ne resterait donc que des lemmings sans ce gène altruiste. Ce gène ne peut donc pas exister.
Du coup, la sélection de groupe paraît fortement improbable.
Tout à fait. Alors plus tard, vers les années 70, le thème de l'altruisme animal va être reconsidéré dans le cadre de la sociobiologie. L'étude biologique des insectes sociaux, par exemple, va montrer que les comportements altruistes pourraient être liés à leur parenté génétique exagérée. Cette approche socio-biologique va cependant engendrer de nouvelles et de violentes polémiques. Hamilton, lui, avait fait l'hypothèse plutôt d'une sélection de parentèle dès 1964.
Toujours sur cette hypothèse que l'on peut aider ses propres parents.
Oui, en effet, l'hypothèse, c'est que le variant d'un gène pourrait coder des comportements altruistes. Par exemple, chez les suricates, un guetteur alarme, mais en se mettant en danger. Ou encore, les fourmis travaillent pour le groupe sans se reproduire elles-mêmes. Mais comment cela se peut passer ? Le problème, c'est que la parentèle suppose une très forte parenté pour faire apparaître des comportements altruistes. Et même chez les fourmis, cette parenté est très rare. Or, c'est à partir de cette idée que Richard Dawkins va inventer un exemple imaginaire pour résoudre le problème, le gène de la barbe verte.
Allons bon, qu'est-ce que le gène de la barbe verte ?
Alors, Reprenons. La sélection parentale repose sur un fort coefficient de parenté. Il faut donc y échapper. Pour Dawkins, il va imaginer un gène qui va déterminer par exemple une barbe verte. L'effet barbe verte repose sur un seul gène, mais ça peut aussi être étendu à un groupe de gènes selon Dawkins. La théorie de la barbe verte postule que ces altruistes vont se reconnaître entre eux au moyen d'un signe distinctif. Par exemple, cette hypothétique barbe verte, mais ça peut plutôt être une odeur ou une molécule particulière. Ceux-là vont s'entraider alors exclusivement entre eux, et cet altruisme va favoriser la diffusion de leur propre gène, et donc aussi de leur barbe verte. Pour cela, il faut que le variant du gène provoque trois choses. D'une part, il doit déterminer une caractéristique, cette fameuse barbe verte. Deuxièmement, le gène doit occasionner une reconnaissance de ce trait de cette barbe verte par les autres individus. Et enfin, troisièmement, le gène doit aussi déterminer un comportement altruiste orienté préférentiellement vers les autres porteurs. Il faut donc une très très forte corrélation entre trois éléments dont on va hériter ensemble. Du coup, ce comportement altruiste pourra favoriser la propagation de ce gène au fil des générations, même s'il faut sacrifier certains individus qui portent le gène.
Et cet effet barbe verte, ça existe vraiment dans la nature ?
Alors c'est très discutable. Il y a eu des publications, des chercheurs ont publié par exemple sur les fourmis de feu qui vivent soit en colonie monogyne ou soit en colonie polygyne, donc avec plusieurs reines par colonie. Dans les colonies, une partie des reines est attaquée et éliminée par les ouvrières. Les auteurs en ont déduit une sorte d'effet barbe verte, car les ouvrières se reconnaîtraient entre elles et il y aurait de la coopération pour tuer même si elles ne sont pas parentes. Le problème, c'est que l'altruisme est défini ici comme un comportement agressif. On serait altruiste en tuant des individus qui ne portent pas le signal. Donc en fait, on parle pas tellement d'altruisme, mais plutôt de coopération pour tuer. En fait, il n'y a même pas du tout d'altruisme dans ce comportement. Donc cela ne me paraît pas pouvoir expliquer l'altruisme.
Alors, à partir de quel seuil on parlera d'effet barbe verte ou de sélection de parentèle ?
Eh bien, le critère essentiel pour parler d'effet barbe verte, c'est une indépendance entre l'altruisme et la parenté. Alors que chez la parentèle, ils sont évidemment totalement dépendants. L'effet barbe verte peut s'observer entre individus apparentés, mais ce n'est pas nécessaire s'ils partagent le même variant des gènes, la fameuse barbe verte. Si l'altruisme est déterminé par cet effet, on doit l'observer indépendamment du degré de parenté. Mais l'altruisme ne se confère pas un avantage sélectif seulement si les individus concernés sont capables de se reconnaître entre eux. En fait, en gros, on pourrait dire qu'il faudrait que les immigrés apprennent à porter une barbe verte pour être acceptés.
Les pauvres... Bon, en tout cas, l'idée peut-elle être remplacée par l'hypothèse du signal coûteux ?
Alors oui, c'est encore une autre théorie. La théorie du signal coûteux consiste dans une stratégie de coopération destinée à suborner ou à duper les partenaires pour s'assurer d'une position de pouvoir dans un groupe. Ça reste assez proche de la théorie de la barbe verte, en utilisant non plus un gène, mais en quelque sorte la réputation de l'individu. En gros, c'est inutile d'aider égoïstement si personne ne s'en aperçoit. Les comportements généreux, comme le partage de nourriture ou l'élevage en commun des petits, ressembleraient alors à une diplomatie de courtisan. Il faut courtiser un partenaire en démontrant que l'on est un bon camarade. Ce signal est évidemment coûteux. Il nécessite que les individus soient capables de se discriminer dans les comportements affichés. Les individus égoïstes ou altruistes. Une simple perception différente de la réputation d'un autre peut entraîner des erreurs dans la perception et donc empêcher la coopération. C'est encore une théorie qui suppose que l'individu reste très très calculateur, car cela se réduit en fait en un calcul entre égoïstes.
Mais alors, comment expliquer l'altruisme entre individus non apparentés ? Est-ce que cela existe ?
Oui, cela est observé, par exemple chez le pic des chênes américains, ou encore même parfois chez les lions, qui collaborent pour chercher des glands, ce sont les pics des chênes américains, qui collaborent pour chercher des glands et se reproduire ensemble. Ils vont former des groupes de plusieurs individus. C'est des versions assez modernes de la sélection à plusieurs niveaux et de la théorie des jeux qui essaient de surmonter les objections initiales faites à la sélection de groupe. Mais le problème reste qu'il suffit qu'un seul individu soit plus égoïste que les autres et ça va miner l'équilibre total de la population. Alors on a introduit des concepts de punition des tricheurs et d'autres contraintes. On établit des matrices de corrélation. Mais il faut mesurer aussi la contribution de chacun. Le problème reste le réductionnisme de cette pensée, car le résultat d'une coopération peut s'avérer meilleur que la somme des contributions individuelles.
Oui, est-ce qu'un tout est supérieur à la somme de ses parties ? C'est un peu la question que pose Joan Rogarden dans son livre « The Genial Gen » écrit contre Dawkins.
Oui, Joan Rogarden est une biologiste très célèbre, mais aussi très chrétienne.
Ça peut pas être parfaite.
Rogarden milite curieusement d'ailleurs pour une harmonie entre la foi chrétienne et le travail scientifique, ce qui est évidemment impossible. On peut pas soit avoir la foi ou soit raisonner, il faut que ça soit les deux, il faut que ça soit l'un ou l'autre. Ces dernières années, cependant, elle s'est tournée vers une forme plus atténuée de l'intelligent design, une sorte de créationnisme réduit mais un peu plus présentable. Bon, revenons. Rogardin critique la biologie traditionnelle qui est infectée par des préjugés patriarcaux et préjugés sexistes. Elle est évidemment par la première à s'émouvoir du caractère très réactionnaire et très eugéniste du néo-darwinisme dominant. Rappelez-vous, dès 1902, en répertoriant les espèces dont les interactions sont positives, Kropotkin avait déjà souligné combien l'entraide peut s'avérer un facteur puissant d'évolution.
Et comment envisage-t-elle l'idée de la générosité entre les animaux ?
Alors pour John Rogardin, pour critiquer la thèse du gène égoïste, elle prend l'exemple du nid d'oiseau. Le nid est selon elle une nouvelle entité qui résulte du lien entre le mâle et la femelle, qui résulte de leur collaboration. Le succès évolutif d'un mâle et d'une femelle ne réside donc pas dans les gènes, parce qu'ils possèdent en tant qu'individus, mais dans la relation qu'ils développent entre eux. C'est pour ça qu'elle a ajouté un sous-titre « Deconstructing Darwinian Selfishness » qui propose évidemment de déconstruire l'égoïsme darwinien de la sélection sexuelle.
Elle écrit aussi que ce livre traite de la question de savoir si l'égoïsme et l'individualité, plutôt que la gentillesse et la coopération, sont des éléments fondamentaux de la nature biologique.
Oui, elle laisse même supposer qu'elle serait la première à reconnaître que les intérêts reproductifs des mâles et des femelles coïncident souvent. Elle oppose donc l'idée d'une nature généreuse à l'idée d'une nature égoïste. Elle affirme que dans la nature, il n'y a aucune preuve que les animaux agissent pour favoriser leur propre survie et leur propre reproduction. Elle poursuit sa critique par un plaidoyer contre la théorie de la sélection sexuelle et du conflit sexuel. Selon John Rogardin, la théorie de la sélection sexuelle découlerait d'une vision du comportement fondée sur le gène égoïste, sur la compétition et sur la tromperie. Elle présente alors sa théorie de la sélection sociale comme une alternative. Sa sélection sociale est fondée sur la coopération et non pas sur la compétition. Et donc, elle découle du travail d'équipe, de l'honnêteté, de l'égalité des gènes. Elle s'appuie sur des modèles économiques de la théorie des jeux pour soutenir que la coopération et les dérèglements négociés sont bien plus probables que la compétition et le conflit.
La théorie des jeux, ce sont des modèles mathématiques.
Oui, des modèles comme l'équilibre de Nash qui offre une matrice de solutions. Dans la théorie des jeux, par exemple, le dilemme du prisonnier, ben, y a deux joueurs. Chacun peut coopérer ou faire défection. La défection rapporte plus que la coopération, sauf si les deux font défection, car alors les deux perdent. Si le jeu ne dure qu'un ou deux tours, il n'y a aucune manière de coopérer sans perdre. Par contre, si la durée du jeu est indéfinie, là la coopération émerge. En refusant les confusions de la théorie de la sélection sexuelle, Rogardin pose en fait une dynamique dite de sélection sociale, dans laquelle mâles et femelles coopèrent harmonieusement pour élever et nourrir leurs petits. Son grand exemple est donc celui des oiseaux nicheurs qui travaillent conjointement pour s'occuper des petits. Et là, du coup, pour elle, la coopération est bien plus forte que l'égoïsme.
C'est pas mal ça, mais cet altruisme est-il différent? En quoi il est différent de celui-là, de ce qui était proposé par la barbe verte de Dawkins?
Eh bien, l'altruisme de Hamilton et celui de Dawkins, c'est un altruisme égoïste. L'altruisme de Rogardin est un altruisme généreux. Un gène égoïste crée-t-il un conflit sexuel universel? Non, répond-elle. La gentillesse et la coopération sont la base de la nature biologique. La sélection sociale de Rogardin est fondamentalement basée sur la coopération, non sur la compétition. Du coup, elle réinterprète les travaux de recherche sur la coopération. Et à partir de la théorie des jeux, elle conclut que l'approche coopérative donne une image scientifiquement beaucoup plus crédible que l'approche concurrentielle de la sélection sexuelle.
Mais alors, ce serait une sorte de gène favorisé par le groupe.
Oui, mais elle le nie et elle nie reprendre cette théorie de sélection de groupe, tout en maintenant la sélection naturelle darwinienne. Sur la base des thèses qu'elle avance, je trouve qu'elle ne fournit pas vraiment d'arguments crédibles pour assurer que la gentillesse est à la base de l'évolution. En revanche, sa critique de la sélection sexuelle est-elle assez justifiée? Elle a montré qu'il est possible de réinterpréter la recherche biologique dans des termes qui ne reposent pas sur la concurrence et que la sélection sexuelle n'a pas de privilège particulier. Mais ça signifie aussi qu'elle n'a pas besoin de se référer à une explication divine ou transcendantale pour expliquer l'évolution.
Toi-même, Thierry, notamment dans ton livre « La guerre des sexes », tu avais largement illustré que la sélection sexuelle du néo-darwinisme se fourvoyait.
Oui, je pense d'ailleurs que le titre de mon livre a aussi égaré les lecteurs. Ils ont imaginé que je décrivais un conflit généralisé, alors que tout le livre insiste sur sa fin à ce conflit, sur la réconciliation inévitable des sexes. Je critique beaucoup les théories de la sélection sexuelle parce qu'elles sont à la fois pléthoriques et trop confuses, ça engendre vraiment une confusion kuhnienne. Par exemple, j'ai écrit à l'époque que les couleurs du faisan ne sont pas sélectives en soi. la poule faisane ne va pas choisir la couleur du faisan. L'idée que la taille ou la couleur des mâles soit une cible de la sélection dans la nature ne résiste pas à ce que j'ai nommé la leçon des perroquets.
Oui, la leçon des perroquets. En effet, les mâles et les femelles de perroquets ont les mêmes couleurs finalement.
Oui, tout comme les huppes, comme les martins pêcheurs. Parce que ce ne sont pas les mâles qui gagnent des couleurs pour plaire aux femelles, mais les femelles qui perdent leurs couleurs quand elles sont exposées durant la couvaison. Le martin pêcheur ou le perroquet couve à l'abri d'une cavité dans l'obscurité. Du coup, les femelles peuvent garder leurs couleurs vives à son dissimulé. Au contraire, la poule faisane a perdu ses couleurs parce qu'elle couve en plein champ, exposée aux prédateurs. Après nombre d'analyses, j'avais conclu que loin de sélectionner des gènes, les animaux montrent une préférence sexuelle fondée sur leurs différences, et notamment sur leur système immunitaire. Point de gènes égoïstes, mais une grande fabrique de diversité.
Il disait, toi et moi, j'écoutais sans émoi. Il parlait de son cœur, des désirs de son corps, de ses jours sans bonheur, mieux encore. Il parlait d'avenir, j'écoutais sans plaisir, car j'avais peur d'aimer plus qu'il ne faut. Il parlait beaucoup trop. Quand je lui disais, moi je m'en fous, car rien n'existe. Moi je m'en fous, je suis égoïste. Il m'a dit l'autre jour, c'est fini notre amour. Sans crier, sans rancœur, quittons-nous, bons amis. Je ne crois pas au bonheur pour la vie. Il disait, ne pleure pas, tu le sais, j'aime pas ça. Laisse-moi m'en aller, bientôt tu oublieras. Je pleurais. Rien ne m'attriste.
C'était Je suis égoïste par Juliette Gréco. De retour sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans Dieu et sans publicité, pour bousculer notre tête avec science en liberté. Et aujourd'hui, nous parlons de l'égoïsme de la nature. En fait, Thierry, depuis le début, on constate que l'égoïsme est toujours considéré comme fondamental dans le vivant. Dawkins insiste sur la concurrence darwinienne entre tous et tous, même entre gènes. Quant à la tentative de Ojoan Rogarden pour affirmer que la générosité est le fondement de la nature, elle semble vouée à l'échec.
Oui, Siona, parce que tant qu'on ne va pas éclaircir les concepts d'altruisme et d'égoïsme, toute théorie semble sombrer dans l'idéologie morale la plus simpliste. L'altruisme est supposé être le fait d'un individu qui favorise un autre au détriment de sa propre reproduction, et ça favoriserait la survie d'espèces. Pourtant, il n'est pas légitime de donner des pouvoirs ou de l'égoïsme aux gènes, comme Dawkins le voudrait, pour ensuite justifier le résultat de la sélection dans un raisonnement circulaire. Bien sûr, Dawkins se gardait de clamer que l'égoïsme qui prévaut au niveau du gène serait normatif pour la société. Toutefois, il s'inscrit dans une perspective très traditionnelle du darwinisme qui insiste sur la sélection et la concurrence. Au contraire, Rogarden multiplie les modèles de matrice pour rendre son idée de générosité plus scientifique, dans un raisonnement punitif. Elle insiste sur le fait que des individus soient prêts à punir ou à récompenser les individus généreux pour la simple survie de leur gène. Du coup, cela pose question sur l'utilitarisme de cette pensée. Et elle échoue à démontrer le caractère généreux du gène. On voit qu'à partir du moment où la sélection naturelle est regardée comme le principal moteur de l'évolution, il est impossible de sortir de cette situation.
Est-ce que le désintéressement existe dans la nature ? Des animaux ont-ils des formes de coopération à long terme ? même quand ils n'ont pas de lien de parenté, et comment expliquer ces phénomènes?
Alors on l'a vu, oui, il existe des animaux qui vont ne pas avoir de lien de parenté, comme par exemple les pics des chênes, les moqueurs verts, etc., et qui vont effectivement avoir des relations de coopération. Alors, il faut trouver pour cela d'autres thèses. Robert Strivers a inventé la thèse de l'altruisme dit réciproque. Ça permet d'expliquer avec d'autres moyens la vie coopérative des animaux qui vont aider sans se reproduire. Il s'agit donc d'une aide proposée à perte et sans condition par chacun des organismes. Mais la théorie de Strivers montre que la coopération peut quand même créer un bénéfice commun.
Allons, voyons donc cela, l'altruisme réciproque maintenant.
Considérons les moqueurs verts. Ce sont des oiseaux africains qui vivent en bande autour d'un couple reproducteur. Des juvéniles viennent en aide aux parents pour élever une nouvelle couvée. Et eux, ces juvéniles, ne se reproduisent pas encore. Au départ, l'oiseau exerce donc une action bénéfique envers un reproducteur sans pouvoir en obtenir un retour direct ou un retour contrôlé. La logique de l'altruisme réciproque se différencie des autres parce qu'il peut commencer par une aide à perte, quasiment désintéressée, sans recherche de contrôle de la situation non plus, contrairement à la théorie des coûts. En fait, le terme réciproque indique qu'il faudra quand même un retour. Des mécanismes de régulation tacite vont générer une situation stable. Le plus évident étant qu'un comportement altruiste qui coûte trop en l'absence d'un bénéfice en retour finit par disparaître.
Donc, l'altruisme réciproque décrit une forme apparemment assez désintéressée de l'aide.
Oui, mais tout de même, l'altruisme réciproque peut aussi se montrer intéressé à court terme. Si l'aide obtient par exemple un territoire hérité, ou même tout simplement une expérience dans l'élevage de la couvée. Pour que l'altruisme puisse être réciproque, il faut que les individus qui ne jouent pas le jeu de la réciprocité puissent être exclus du jeu. Du moins, même sans sanction. La réciprocité suggère et requiert des interactions fréquentes entre les individus. Il faut donc une certaine affinité dans le groupe. C'est ce qu'assure la proximité. En fait, la théorie de l'altruisme réciproque suppose une sorte d'échange différé, que la coopération trouve par la suite un possible bénéfice. Par exemple, chez les vampires d'Azara, ces petites chauves-souris, elles ne peuvent pas survivre sans un repas de sang toutes les 48 heures au moins. Wilkinson, qui a étudié cette espèce, a constaté que d'une part, beaucoup d'animaux rentrent bredouilles, jusqu'à 30% des jeunes, 7% des adultes. Pourtant, le taux de mortalité annuel n'est que de 24%, et il n'est pas rare que des individus atteignent même l'âge canonique de 12 ans. Ces deux constatations laissent supposer l'existence d'actes altruistes, d'aide. Et en effet, on observe le don de sang entre les individus. Leurs congénères vont leur donner un petit peu de leur surplus aux animaux qui n'ont pas réussi à obtenir un repas. Cet échange de sang se fait selon les affinités propres des individus, et l'entraide maintient donc des liens dans la colonie entre individus, même non apparentés.
Donc, il existe bien de la coopération entre individus, même lorsqu'ils ne sont pas apparentés. Cela ne signifie alors qu'il faut trier entre la théorie de la barbe verte et l'altruisme réciproque.
Tu as raison, il va falloir démêler tout ça. Et à partir de l'égoïsme supposé de la nature, on découvre que des animaux ont des relations sociales. Ça, c'est quand même un peu inventer l'eau chaude. En fait, la coopération, on la connaissait déjà. Car en fait, si on s'éloigne complètement de l'idée de l'altruisme, maintenant on va étudier la coopération. On s'écarte tout autant de l'égoïsme pour parler de survie ou de concurrence. Finalement, on décrit ce que les interactions produisent dans l'évolution de la nature. On est en train de parler d'écologie.
Mais le bénéfice est-il encore génétique quand il y a réciprocité entre individus non apparentés ?
Les interactions entre les individus sont fréquentes et elles vont déterminer des affinités. Il n'y a pas de gène pour les interactions entre elles. Mais il reste quelque chose à transmettre pour chacun, car chacun est un ensemble unique de gènes qui contribue d'une manière interactive à un phénotype unique. Pour se reproduire, il faut obligatoirement qu'une interaction ait lieu entre des mâles et des femelles, par exemple. Et chacun propagera une partie seulement de ces gènes. C'est ainsi, par exemple, que les gènes des castors produisent aussi la fabrication de leur niche écologique.
Alors peut-on dire que finalement, la nature est surtout égoïste et que les animaux ne cèdent que lorsqu'ils en tirent un bénéfice immédiat ou à venir?
Réfléchissons. L'égoïsme, décrit comme cela, aurait pour finalité la survie d'individus. Il est donc valable, il a donc une valeur sélective. Le problème, c'est que ces deux concepts, altruiste et égoïste, ne sont pas symétriques du tout et qu'on ne peut pas les opposer. Du coup, ils sont ancrés dans une conception très idéologique du monde naturel et ils ne sont pas capables de décrire une réalité. Les synonymes à l'égoïsme, c'est l'ingratitude, l'égocentrisme, la cupidité. Ils sont alors des idées négatives, ils ne sont pas efficaces dans l'évolution. Du point de vue de l'individu, dans l'évolution, c'est sa survie qui compte. Les autres lui sont donc indifférents. Mais est-ce que c'est égoïste de penser à sa survie ? On voit bien que survivre est d'abord le fondement du vivant. Mais on ne peut opposer cette survie qu'à la mort. Alors forcément, la survie, elle est nécessaire. Mais si la vie est supposée égoïste, c'est donc forcément l'égoïsme qui gagne. On a donc bien affaire à un préjugé.
Oui, donc chacun s'efforce de survivre, mais cela rappelle encore du Darwin. Alors, cela dit qu'il y a une lutte pour la survie, une struggle for life, dans laquelle chacun se bat contre les autres.
Pas tout à fait. Le fait de survivre n'impose pas la bataille. On se rappelle que la nature n'est pas parcimonieuse, mais qu'elle est au contraire exubérante. L'idée darwinienne est que tout ce qui existe sert à quelque chose, et que tout ce qui ne sert pas va être éliminé. Mais depuis, on a découvert les gènes surabondants, qui ont été qualifiés de gènes égoïstes. On peut regarder cela autrement. Le néo-darwinisme valorise aussi l'idée que les gènes codent des caractères. Pourtant, ce déterminisme génétique ne marche plus dans ce génome surabondant rempli de gènes inutiles. Du coup, ces gènes sont là sans utilité apparente. Sauf qu'en analysant, on s'aperçoit qu'une partie de cet ADN surnuméraire est impliquée dans la régulation d'autres gènes. Mais il reste quand même des tas de gènes apparemment inutiles. Et bien on voit que petit à petit, on s'approche d'une autre solution.
Mais laquelle de solution ?
Voyons. L'évolution peut diffuser beaucoup de gènes, inutiles, parfois que la moitié des propres gènes, et elle diffuse une capacité qui n'est pas un avantage à un moment donné, mais qui peut devenir un avantage plus tard. L'accumulation de gènes n'est pas forcément la recherche de bons gènes. Il n'y a pas de gènes bons ou mauvais. Et ça résulte simplement de notre longue histoire évolutive. Quittons cette idée de bons ou mauvais gènes pour considérer que les gènes n'existent que dans un contexte particulier lorsqu'ils s'expriment. Par exemple, on sait que l'activation des gènes pourrait être influencée par notre régime alimentaire, ou encore par notre environnement. C'est un mécanisme nommé l'épigénétique. En effet, certaines régions de l'ADN sont parfois modifiées par le biais d'un processus dit de méthylation. Cette modification aboutit à diminuer, voire à éteindre l'expression d'un gène. Autrement dit, l'épigénétique montre que des gènes vont être utilisés, ou pas, par une cellule. C'est pourquoi dans mes livres, comme par exemple dans la biodiversité amoureuse, j'ai proposé la théorie du gène livre de cuisine.
Oui, effectivement, c'est intéressant ça. Les gènes seraient simplement, finalement, des recettes pour faire un gâteau. De la haute cuisine, alors.
C'est un peu ça, parce qu'une recette ne fait pas le gâteau toute seule. Il lui faut la machinerie cellulaire, tout un environnement aussi. Le gène ne peut fonctionner tout seul. Il nécessite un environnement tel qu'une cellule. Si on imagine que l'échange des gènes pendant la reproduction n'est pas déterminé par des bons ou par des mauvais gènes, on peut dire qu'il constitue juste un partage de gènes entre partenaires sexuels. Chaque descendant repart pourvu d'une partie des gènes de ses parents. Mais ce descendant n'a pas nécessairement besoin de manifester toutes les qualités qu'il possède. Cela ne signifie pas que son génome soit inutile. Ainsi, les transposons peuvent se morceler, se stabiliser. Toutefois, la cellule utilise des séquences pour remanier en permanence son génome. Et cette variabilité génétique, elle, va favoriser une adaptation à des changements de l'environnement. Et ça, en quelques générations.
Donc le gène n'a rien d'égoïste, mais est juste un morceau d'ADN qui s'échange ou pas.
Comme une recette de cuisine. Alors que le gène de Dawkins est présupposé coder une information, voire même il est programmé pour se reproduire, dans ma théorie du livre de cuisine, le gène est juste une probabilité de s'exprimer en fonction de son environnement propre. Car le gène n'existe que s'il s'exprime. Mais il peut aussi être mis en réserve, juste au cas où. Il ne disparaîtra que s'il est éliminé par un accident évolutif. L'ensemble des gènes donnés par une lignée comporte toute une panoplie très riche qui permettra à l'individu de trouver une configuration génétique différente le moment venu. Dans un environnement donné, certains gènes de cette panoplie vont lui permettre de fabriquer un autre gâteau, une autre recette, plus favorable, dans un autre contexte évolutif. Les gènes apparemment inutiles peuvent toujours servir. Le corps les garde, parce qu'ils reflètent l'histoire évolutive, mais il les propage aussi comme des recettes de cuisine que chacun peut utiliser le cas échéant. On n'est pas obligé de faire du cassoulet si on n'a pas envie d'en faire. Et on peut utiliser une autre recette. Ces gènes reflètent l'histoire évolutive du groupe, un peu comme chez l'humain, qui garde par exemple la preuve de sa rencontre avec des virus ou encore avec l'homme de Néandertal. On ne sait jamais, les gènes de Néandertal qui sont en nous serviront peut-être un jour pour échafauder une nouvelle espèce d'humain, pour évoluer.
En fait, d'après ta théorie, plus on est génétiquement riche, plus on peut transmettre de gènes intéressants.
Oui, sauf que c'est une richesse combinatoire. C'est-à-dire que c'est bien une diversité de nos gènes qu'on transmet, et non pas une fortune qu'on additionne. Les gènes transmis ne sont ni bons ni mauvais, ils s'arrangent juste pour donner des recettes que le corps va utiliser ou pas. L'évolution vue par Darwin est forcément avantageuse. La sélection fait progresser les espèces, et tout évolue vers le meilleur, tout s'améliore. Au contraire, selon moi, les organismes survivants ne sont pas meilleurs que les autres. Ils n'ont pas de meilleures raisons de survivre. Car il n'existe pas de bataille généralisée pour les bons gènes. Bon, bien sûr, il y a des gènes qui sont délétères. De gènes qui sont mortels, souvent à l'état homozygote. Et ceux-là sont à éviter. Mais la plupart des combinaisons offrent l'avantage de la diversification dans la nature. Et c'est ça qui offre une immense biodiversité.
Pas de struggle for life, alors. Donc, la diversité de notre patrimoine est ce qui fait notre richesse individuelle, bien plus que de posséder des soi-disant bons gènes.
Tout à fait. La reproduction et le choix des partenaires ne guident pas l'accumulation quantitative de bons gènes, mais au contraire l'obtention combinée de gènes différents, d'une diversification des gènes. Aussi, une espèce qui a entre guillemets perdu la guerre de l'évolution à une époque donnée comme les dinosaures, elle aurait pu survivre en d'autres temps ou en d'autres lieux. C'est pourquoi les choix sexuels s'appuient bien davantage sur la différence de l'autre que sur la pêche aux soi-disant bons gènes. Les partenaires sexuels se séduisent ensemble à travers la diversité de leurs gènes, et notamment à travers leur MHC, leur système immunitaire. C'est pourquoi de nombreux animaux s'embrassent ou se reniflent le derrière. Du coup, ils peuvent avoir un grand nombre de partenaires ou pas. S'ils cherchaient juste des bons gènes, bah depuis longtemps, tous leurs descendants seraient déjà pourvus de ces bons gènes.
Bah,
de génération en génération, à force de les accumuler, ces bons gènes, nous serions tous ces enfants des meilleurs gènes. Ou alors, il faudrait avouer que le néo-darwinisme suppose que les femelles sont toutes incapables de bien choisir.
Oh.
Bon, c'est toujours un peu les femelles qui payent dans le néo-darwinisme. Non, la reproduction privilégie d'abord la diversité des conduites, la diversité des corps, car parce que l'amour privilégie la différence. C'est ce que j'ai appelé la biodiversité amoureuse.
Tout à fait, mais alors, comment comprendre si la nature est égoïste ou pas égoïste, voire même si elle est vraiment altruiste ou généreuse?
Alors si on définit biologiquement l'altruisme comme un sacrifice énergétique de soi en faveur de la survie des autres, bah, il est logique de définir biologiquement l'égoïsme d'une manière symétrique, comme un comportement qui porterait atteinte aux autres, qui leur soit intrinsèquement défavorable. Du coup, on voit que l'égoïsme non plus pourrait pas être sélectionné par l'évolution, qui oblige au moins à se mettre à deux pour se reproduire. Or justement, l'altruisme, lui, reste toujours pensé comme défavorable à l'individu, tandis que l'égoïsme, même dans les actes apparemment altruistes, favorise toujours l'individu. On voit donc qu'il s'agit de deux valeurs non symétriques, et on retrouve dans leur opposition le préjugé de la valeur qu'on leur a attribuée au départ. Dire que la nature est égoïste est un raisonnement circulaire, puisqu'on retrouve juste ce qu'on a posé au départ, c'est-à-dire l'idée que la nature privilégie le fait de survivre. Alors forcément, chercher l'altruisme, c'est aussi voué à l'échec. C'est pour cela qu'on traite de la coopération, ce qui n'est pas du tout la même chose. Au contraire même, car on peut coopérer pour sa survie individuelle, bien entendu. Et la coopération n'a rien d'égoïste.
Et ensuite, évidemment, on peut affirmer facilement que l'altruisme ne peut pas survivre dans un monde dominé par l'égoïsme, ou même que l'altruisme est dirigé par son propre égoïsme.
Tout à fait, Siona. Puisque dès le départ, on définit l'égoïsme comme un comportement qui augmente la valeur adaptative du donneur et diminue celle du receveur, eh bien, on retrouve ça à la fin. L'égoïsme est donné au départ comme une situation préalable. De même que l'altruisme est décrit comme un comportement qui diminue la valeur adaptative du donneur. Alors du coup, il a peu de chances de se pérenniser dans les populations, puisqu'il diminue. On comprend donc l'inutilité de la contestation de John Rugarden face à Richard Dawkins.
Mais alors, d'après toi, Thierry, et dans ce que tu as écrit dans tes livres, il y a de la coopération dans la nature, comme le supposait Piotr Kropotkin.
Oui, parce que la coopération n'est pas du tout sur le même registre. Deux individus de sexe différent, par exemple, coopèrent pour se reproduire. Cela ne signifie pas qu'au départ, leurs différences n'agissent pas sur eux comme sur une situation conflictuelle. Je l'ai largement expliqué dans le livre « Depuis la guerre des sexes ». Ce qui compte pour se reproduire, ce sera bien l'association de deux êtres très différents. J'appelais ça la réconciliation. Le conflit sexuel existe sur la base de la différence. On a toujours un peu peur de l'autre, on ne sait pas ce que va faire l'autre. Mais il n'est que la dynamique de la réconciliation à venir. Si on ne se confronte pas, il n'y aura pas de dispute. Il faut donc faire un choix sexuel délibéré. Bref, c'est la liberté d'aimer en quelque sorte. On est ici dans la même interaction que dans un mutualisme, par exemple. Dans le mutualisme, c'est un comportement d'entraide qui va être compensé par des avantages immédiats ou des avantages à venir.
Par exemple, est-ce que les chauves-souris vampires peuvent entrer dans le cadre de ta théorie ?
Eh bien oui, bien sûr. Wiglinson, qui étudiait le petit vampire d'Azara, a montré que cette chauve-souris qui se nourrit que de sang ne peut survivre plus de 48 heures sans un repas. Et l'a observé sans des échanges. 70% de ces échanges étaient ceux de la mère à son petit, d'accord. Mais 30% étaient des dons envers des étrangers ou envers d'autres femelles adultes. Dans tous les cas, les individus ne disposaient que très peu de réserves. Ils avaient un besoin urgent de l'aide. Alors que pour la femelle donneuse, ça lui coûtait quasiment rien puisqu'elle était déjà rassasiée. Pour l'individu qui reçoit le don du sang, c'est absolument vital. Alors on comprend pourquoi cette chauve-souris donne un peu de son repas. Même entre animaux non apparentés, mais avec une nuance. L'échange de sang est privilégié si les animaux se connaissent, se reconnaissent, car elles se côtoient de longue date. Elles ont développé ce que l'on nomme des affinités.
Tu vois ces affinités comme cette réconciliation du conflit dont tu parles,
hein. Et l'amour aussi, hein, comme une affinité évidemment
N'est-ce
qui va permettre de se réconcilier pour se reproduire. Oui, parce que la proximité, c'est un élément contextuel qui est nécessaire à l'apparition du comportement d'aide ou de coopération. L'identité du coopérant est intimement liée à la communauté de coopération. C'est ce que j'ai nommé la familiarité. La familiarité entre les individus n'a nul besoin de parenté génétique pour se manifester. Elle est une des conditions d'appartenance au groupe. Et c'est cette familiarité que chacun apprend. Je l'avais d'ailleurs publié sur les putois. Par exemple, j'ai pu mettre en évidence que, chez ces jeunes putois, ils se comportaient de la même manière qu'ils soient apparentés ou seulement familiers entre eux. La familiarité est donc une force considérable pour appréhender les autres, et donc aussi pour les apprivoiser. On peut même faire l'hypothèse que la cour amoureuse est chez les animaux la meilleure façon de s'apprivoiser avant l'acte sexuel, de se familiariser avant d'arriver à une coopération. Par ce comportement qui est assez coûteux de cour amoureuse, les animaux apprennent à être familiers l'un avec l'autre. Et c'est ça qui va inaugurer leur association pour se reproduire ensuite.
Oui, à se connaître, à se reconnaître. Alors tu imagines une biologie évolutive beaucoup plus apaisée et communautaire?
Oui, Siona. Les animaux sont libertaires et décident eux-mêmes de leur communauté. L'égoïsme ou l'altruisme en biologie ne sont donc que à reléguer au rang d'hypothèse nulle. Ce sont des notions oiseuses qui, sous couvert d'expliquer la science aux profanes, n'y mettent que de la confusion et se glissent comme des pseudo-vérités idéologiques. Ces hypothèses qui proviennent directement de la morale colorent la biologie de connotations qui sont généralement réactionnaires, comme par hasard.
Et patriarcales, et tout, voilà. Enfin, et conflictuelles, oui.
Non seulement des notions comme égoïste ou altruiste posent directement un anthropomorphisme pesant, mais elles attribuent à la nature des processus copiés sur la fixation des marchés de capitaux, sur les mœurs religieuses ou sur les mœurs les plus réactionnaires. Il s'agit donc de préjugés moraux et non pas de considérations scientifiques. Et ces jugements, ces préjugements, viennent fausser l'analyse de la réalité et répéter les mêmes poncifs que nous répète la société marchande. Non, l'avidité n'est pas un préalable à la vie sociale. Bien au contraire, l'évolution est beaucoup plus libertaire que cela.
Et donc, pour essayer de conclure cette discussion très fouillée, on peut dire que les études et les analyses, du moins en biologie théorique, ont besoin de contradictions, voire même d'ouvrir des débats contradictoires. C'est sain de débattre aussi.
Peut-être oui. On a besoin de conceptualisation polémique en science. Mais il ne s'agit pas que d'un débat purement intellectuel, mais aussi d'une vision plus profonde de notre monde vivant. Je crois vraiment qu'il faut changer de paradigme et quitter ce paradigme néo-darwinien qui est arrivé au bout de son pouvoir explicatif. Et plus encore, après cette dernière ressassée de Dawkins. Les études qui s'étonnent encore et répètent que la vie coopérative existe même dans le darwinisme révèlent, comme le disait Pichot, un certain radotage. Oui, la coopération entre animaux a toujours été décrite dans la nature depuis Buffon au moins.
Tout à fait, oui. Il n'y a rien de nouveau à découvrir des animaux qui vivent ensemble.
Tout à fait, il n'y a rien de nouveau à découvrir cela. L'affirmation de l'égoïsme dans la nature traverse toujours la science, comme si cela validait naturellement les fondements de notre société marchande. Bien sûr, il existe des espèces à tendance plutôt individualiste. Elles ne sont pas solitaires, parce qu'elles ont une vie sociale différente, indirecte certes, mais une vie sociale tout de même. Oui, il existe des espèces à tendance plus sociale. Elles ne sont pas pour cela individualistes ou altruistes, mais les individus coopèrent ensemble. Car il faut coopérer pour se reproduire, ou même simplement pour s'inscrire dans l'écologie des communautés. Les gènes se propagent à chaque reproduction, mais la vie sexuelle se fonde sur la différence des partenaires, sur la complémentarité et sur la variation de leurs gènes immunitaires, un peu comme sur la variation de leur conduite sexuelle.
Il existe donc des modèles de propagation génétique, des traits, sur ces bases coopératives, hein.
Oui, il existe différents schémas qui peuvent alors expliquer la diffusion génétique de ces traits phénotypiques qui s'associent, tout ça dans l'évolution. On sait depuis longtemps que plus il existe d'interactions entre les individus et plus le taux d'évolution est fort et marqué chez les espèces. Car il s'agit de phénotypes qui sont essentiels pour favoriser la reproduction de tous les individus. La coopération réciproque entre individus non apparentés aboutit à une augmentation de la valeur dite sélective chez ceux qui la pratiquent, puisqu'ils sont alternativement assistants et alternativement assistés. Et tout ça, ça construit des niches nouvelles. La liaison amoureuse, l'association sont des forces essentielles en écologie évolutive. Et c'est la force de toutes ces interactions qui disent combien l'évolution est une écologie qui évolue, une écologie évolutive. Et il n'y a pas de reproduction sans association, sans liaison entre partenaires. Et cette liaison exige un certain apprivoisement, une familiarité de contact qui apaise la relation. C'est ce que j'ai nommé une réconciliation du conflit sexuel. La question n'est donc pas d'opposer la coopération avec l'égoïsme, ils ne sont pas antinomiques. L'égoïsme est un préjugé, ce n'est pas un concept heuristique en biologie. Il n'existe pas chez les animaux, et encore moins dans les gènes.
Elle s'invente des histoires, et ne sait quand les voir. Ces créatures du soir, elle en rit. De ses cauchemars ne s'attend qu'à recevoir ce doux bellâtre en noir. Elle s'habille de flanelle, mais pas trop comme il aime. S'embellit de désespoir, elle y croyait la belle, à ces jolies fontaines où l'on croise l'amour pour boire. Elle est belle dans sa jolie tenue, potentielle, elle se croit disparue. Tire les oreilles, hey, faut pas rêver quand même. Ce n'est pas l'heure des histoires à la tâche. Elle va se mettre préparée dans sa tête pour ne pas trop y voir. Elle s'arrange les cheveux, remplie de vodka ses yeux. Ne pas arrêter de boire, ça lui donne des couleurs. Un soupçon de bonheur, oh ça me se dégueuloir. Elle est belle dans sa jolie tenue, potentielle, elle se croit disparue. Pour en oublier qu'elle est tenue par cette rengaine à finir toute nue. Qu'elle en oublie d'en avoir vécu des si belles histoires sans son cul. Elle se regarde dans le miroir, elle est prête à recevoir le premier client du soir, ce qui sait la prendre, l'attacher, la suspendre pour mieux la percevoir. Coupant délicatesse, l'arrondie de ses fesses, trouve ça jubilatoire de se tarer, elle s'en branle un peu moins que l'autre soir, davantage elle va boire. Elle est belle dans sa jolie tenue, potentielle, elle se croit disparue. Pour oublier qu'elle est tenue par cette rengaine à finir toute nue. Qu'elle en oublie d'en avoir vécu des si belles histoires sans son cul. Elle entend la grande porte tout au bout du couloir claquer sur son espoir, se rapproche du brouillard, tant d'espérer à boire. Elle l'entend, il s'approche, trop tard. Mais avant qu'elle ne sorte, son grand jeu de tous les soirs, elle se replonge dans ce putain de miroir où elle se raconte des histoires. Se soutire un sourire, se soutire deux sourires pour ne pas dépérir. Elle est dans sa jolie tenue, potentielle, elle se croit disparue. En oublier qu'elle est tenue par cette rengaine à finir toute nue. Qu'elle en oublie d'en avoir vécu des si belles histoires sans son cul. Elle est dans sa jolie tenue, potentielle, elle se voit disparue.
Nous écoutions Madame par Le Petit Son.
Voilà, la nature ne peut donc pas s'avérer égoïste. Ce préjugé tenace n'a rien à faire en biologie. Et cependant, la plupart des modèles théoriques font l'hypothèse implicite qu'il existe une concurrence fondamentale entre les individus et que cette compétition irréductible les rendrait essentiellement égoïstes, au nom de l'évolution. Cette concurrence existerait dans la nature. Toutefois, il est aisé de comprendre que l'être vivant cherche d'abord à survivre, et ce besoin vital n'a rien d'égoïste en soi. Ni de généreux, d'ailleurs. L'altruisme est aussi voué à l'échec, puisque sa valeur adaptative est nulle. En revanche, chacun peut coopérer et établir une coopération réciproque. Chaque individu, évidemment, va chercher sa place dans une écologie qui bouge et qui change sans cesse au cours d'inouïes périodes de temps. Chaque être vivant, chaque individu est d'abord différent des autres. Toute espèce ayant juste à s'occuper de sa propre descendance et de sa survie a dû nécessairement développer une forme de coopération, juste pour se lier, pour s'associer, pour générer sa progéniture et permettre à ses petits de survivre. Chaque espèce se spécialise dans un écosystème avant même de diverger, car la spécialisation des phénotypes précède toujours la spéciation. Mais chaque individu résulte toujours d'une combinaison unique de gènes qui le fait différer irréductiblement des autres. Face à une telle différence, une telle disparité, chaque individu doit découvrir et apprendre l'autre au risque du conflit. Et ça peut dégénérer en conflit comme en coopération. Si la différence est la source de la diversité, elle peut occasionner une sorte de conflit qui va dynamiser les relations. Car la réconciliation s'avère tout aussi nécessaire pour faire un couple, pour constituer un groupe ou pour trouver une place équilibrée dans les écosystèmes. Ce n'est pas celui qui est nommé arbitrairement le plus égoïste qui gagne une guerre pour la survie, mais des individus qui s'installent ensemble, parfois au loin, individuellement d'ailleurs, parfois plus près, et développent encore une fois le vivant. Ni gènes égoïstes, ni gènes généreux, mais une immense diversité d'êtres vivants qui se sont imbriqués dans une longue histoire évolutive, faite de milliards d'années, dans une écologie évolutive qui ne s'arrête toujours pas et qui désigne la planète Terre comme l'une des plus exceptionnelles des terres vivantes de notre univers. Et tout ça, c'est totalement des communautés libertaires.
Eh oui, auditrices, auditeurs intrépides, vous pouvez nous contacter sur l'email de l'émission sciencelibre@gmx.fr, science libre au singulier. Vous pouvez écouter et réécouter cette émission ou toute autre émission en la téléchargeant sur le site de Trou Noir. Nous aurons le plaisir de vous retrouver tous les seconds lundis de chaque mois à 18h sur 89.4 à Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour décortiquer la biologie et toutes les idéologies qui l'accompagnent. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté, animée par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. La musique d'introduction était d'Hicham Chahidi et nous allons conclure sur Macorgeais. Chante les canuts.
Tout chante et veni créator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter veni créator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, gens de l'Église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tous nus. Pour gouverner, il faut avoir manteaux et rubans en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Nous en tissons pour vous, grands de la terre, et nous, pauvres canuts, sans drap, on nous enterre. C'est les canuts, nous sommes tous nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde et l'on entend déjà la révolte qui gronde.